Si la nature est un lieu étonnant pour révéler la gloire de Dieu, on pourrait presque dire que d'une certaine manière, la technique qui nous est donnée montre aussi quelque chose de la splendeur de Dieu. La technique, elle s'appuie sur la création, sur une matière créée. Et quand vous pensez que un tout petit appareil, gros comme une montre, mis à 2000 km d'ici sur un appareil téléphonique, moyennant un code secret, me déclenche mon répondeur automatique et me dit tout ce qui est dans ma maison sur mon répondeur automatique. C'est quand même étonnant. Moyennant un petit code secret, deux touches à appuyer sur deux chiffres que personne ne se connaît, sauf celui qui veut déclencher le répondeur automatique. Et je peux entendre là-bas ce qui se passe chez moi. Autrement dit, je peux me téléphoner. C'est quand même étonnant, alors que c'est un petit appareil qui ne signifie vraiment pas grand-chose extérieurement. De ce petit appareil-là, nommé chapelet, rosaire, extérieurement, ça paraît pas grand-chose. Mais quand il touche par ce code secret du cœur de Marie, le mystère de Dieu, il opère des merveilles bien plus grandes que celles-là. C'est une transposition comme une autre. Quand on parle du petit ordinateur qui fait sortir la fleur de terre, ça nous paraît plus adapté. Quand on parle simplement d'appuyer sur deux touches et de déclencher ce genre de mécanisme, on se dit, il y a une grande intelligence là. C'est vrai, il y a une grande intelligence là. Mais cette grande intelligence est signe d'une autre intelligence. Et en même temps, c'est le signe qu'une réalité en cache toujours une autre. Et cela à l'infini. La réalité de la création cache la réalité du Créateur. La réalité de Marie nous dévoile tout le mystère, le secret du cœur de Dieu. Marie, qui coopère à la rédemption, en donnant naissance à Jésus, premier mystère joyeux. Marie, qui met au monde Jésus, troisième mystère joyeux. Marie, qui à la croix devra donner son consentement d'amour à l'œuvre qui est en train de se dire. Oui, c'est vrai, nous pouvons les regarder de manière extérieure. Il faut bien commencer par un bout. Mais de manière extérieure à manière extérieure, nous profitons progressivement de toute une transformation. Nous pénétrons dans tout un mystère, le mystère où Marie coopère au salut du monde, elle qui est la première sauvée, qui coopère au salut du monde en faisant même œuvre que Jésus. Elle n'a pas seulement donné son corps pour qu'il ait un corps. Comme le premier Adam et la première Ève étaient unis d'une manière indissoluble pour une mission qui leur était donnée, la nouvelle Ève qui est Marie et le nouvel Adam qui est Jésus sont unis indissolublement pour une nouvelle mission. Alors, cet abandon si définitif de la liberté humaine à la disposition de Dieu, qu'on appelle ça une disposition à la virginité comme les exégètes qui veulent respecter profondément la réalité qui nous est donnée, que nous appelions ça des vœux comme ceux qui veulent véritablement avancer, déterminer avec l'Esprit Saint, qu'importe l'écorce, c'est le contenu qui compte. Dieu possède désormais auprès de lui tout ce qui est nôtre si nous savons le lui donner. Et avec ce qui est nôtre, il va faire du sien Dieu. Nous lui appartiendrons, nous deviendrons siens. Et il pourra s'en servir comme bon lui semble. Et ce n'est pas moi, jardinier, qui triturant mon petit appareil téléphonique veut dire « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça ne marche pas cette histoire-là, vous comprenez bien ?» Non, je vais entrer dans l'intention de celui qui est mon Créateur et mon Sauveur pour essayer de participer à son œuvre en m'y coulant, moi tout entier. Cette virginité du cœur de Marie, oui, elle la remet à Dieu pour qu'il s'en serve complètement. Elle est pour elle tout à fait abandonnée. Et Dieu fera la fécondité qu'il voudra. C'est un don réciproque. Un don que lui fait son Fils et qu'elle lui rend pour permettre à l'Esprit de la couvrir de son ombre. Mais que le Fils lui restitue avec reconnaissance pour la posséder pendant sa maternité comme l'épouse éternellement vierge. Toujours, d'une manière absolument étonnante, comme un paysage qui s'anime, où nous voyons alors que véritablement tout ce qui est donné à Dieu, Dieu le redonne. Mais il le redonne pour qu'on puisse lui redonner enrichi, et Dieu va encore le redonner. Et à l'infini alors, nous participons à la fécondité du mystère de Dieu. Le oui de Dieu trouve un écho dans le cœur de l'homme. Dieu s'abandonne et trouve un écho dans l'abandon que nous pouvons lui faire. Marie et Joseph, on le saisira un petit peu avec la grâce de Dieu demain, ce mystère. Un abandon à la volonté de Dieu. Une responsabilité de ce que Dieu fait. C'est Dieu qui fait et il faut en prendre la responsabilité. Ce n'est pas rien, ça non plus. Ce n'est pas seulement une petite crise psychologique. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est de l'ordre du mystère. Pour Marie, plus de contradiction pour elle entre s'abandonner à Dieu et s'abandonner à Joseph. Plus de contradiction, mais une merveilleuse unité. Pour Marie, plus de difficultés d'une certaine manière, Jean est devenu son enfant comme Jésus était son enfant. Coopération merveilleuse, où la fécondité de la croix va prendre son essor. La prière de Marie, elle ne cherche rien pour elle, Marie. Nous, on est encore toujours en train de se dire « Ah ben au moins, Seigneur, fais au moins que je corresponde à ta volonté. » Oui, bien sûr. La prière de Marie, c'est « Que ta volonté soit faite. » Quelle qu'en soit la manière, et c'est tout ce que tu veux. Elle ne cherche pas à apaiser sa soif de Dieu. « Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand viendras-tu vers moi ?» Non. Elle veut servir la soif de Dieu. Alors ça, c'est le mystère du rosaire, cette méditation permanente qui nous permet alors de découvrir les secrets du cœur de Dieu. Sans cesse, ressassant, méditant à son école, elle conservait tout dans son cœur. À son école, eh bien, ces mystères qui sont ceux de la mère, de Marie, deviennent ceux de l'enfant. Or, il nous faut demeurer dans son atmosphère, dans son milieu. L'atmosphère de la mère est à la fois son atmosphère propre, personnelle, féminine, sa douceur, son attrait, humainement irrésistible, et l'atmosphère d'éternité, d'infini de la vie trinitaire de Dieu. Elle est bien chez Dieu, Dieu est bien chez elle, et ils font bon ménage, selon une manière de s'exprimer. Une atmosphère qui n'a plus rien de limité, qui n'a rien de confiné, d'étroit, non, qui est ouverte sur l'infini, où le divin va s'épanouir avec toute sa douceur, toute sa splendeur. Virginité, maternité égale fécondité. Ce n'est que le don de Dieu pour qui elle a tout donné, son cœur, son corps, son esprit, tout ce qu'elle est, au service du don de Dieu. Dieu fera en elle ce qu'il veut. Et le passage de cette contemplation toute humaine à cette contemplation divine, au rythme du Saint-Esprit, selon sa cadence à lui, comme il le veut, quand il le veut, ça, c'est le mystère de notre méditation. En elle, Marie, le souffle divin nous touche. Ce passage d'une prière à la fois toute humaine, toute récitée, toute dite, où on va se forcer un petit peu pour y aller, à la contemplation, où nous continuons à réciter notre « Je vous salue Marie », mais l'esprit progressivement se dégage et entre dans le mystère. Ainsi le chapelet devient-il le passage toujours nouveau, de la prière simplement humaine à la contemplation véritable. Et il apparaît clairement que celle-ci n'est point un regard vide, fixé devant soi, une rêverie, mais qu'elle est pleinement active, d'une action qui laisse derrière soi les petits mots de la prière pour pénétrer dans une action bien plus grande, écouter Dieu en se taisant. On peut dire des « Je vous salue Marie » pour apaiser notre imagination, pour apaiser nos soucis. Oh, nous continue, la machine à prière continue à fonctionner, mais l'esprit progressivement se réfugie en Dieu. Et disait la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, j'étais jamais capable de dire un chapelet jusqu'au bout. Oui, le mouvement de la prière la mettait en prière. Écoutez Dieu en se taisant. Depuis son oui et sa visite à Élisabeth, jusqu'à son chemin de croix et son entrée dans l'Église, toutes les actions de la mère ont pour centre la contemplation. Bien sûr, on peut dire plein de choses d'un point de vue extérieur, psychologique, humain, mais il faut immédiatement se dire que ce n'est que le début, une piste d'envol pour aller jusqu'au mystère de Dieu. Elle se tait pour écouter la parole du Fils en elle, au-dessus d'elle, et ne pas la couvrir ou l'interrompre par ses propres paroles. Elle nous fait entrer dans le silence, parce que dans son oui, elle a sacrifié toute la sphère de son intimité spirituelle avec le Fils. Qu'elle ne possède plus rien de privé qui ne soit en même temps public et catholique. Elle est si totalement abandonnée au Fils qu'elle lui permet de disposer même de ce qu'il a de plus secret en elle, des mystères de sa contemplation, et de les distribuer à tous ceux qui prient. Voilà la mère. Avez-vous déjà au point de vue humain, vu une mère qui disait à son enfant « Non, 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 ça c'est pas pour toi, ça c'est pas toi. » Une maman, elle dira « Oui, ça c'est à maman, c'est à papa. » Mais elle dira pas « C'est pas à toi. » Puisque tout le secret du papa et de la maman appartient à l'enfant. On peut même dire que l'enfant a bien plus besoin de l'amour de son père et de sa mère et réciproquement que d'un amour personnel du père et de la mère. Puisque ce qui va constituer le cœur de l'enfant, c'est justement la relation d'amour qui existe entre les parents. Voilà ce dont l'enfant a le plus besoin. Contrairement à ceux qui disent que le divorce, ça n'a pas tellement d'importance, si l'un et l'autre sont heureux chacun de leur côté, ben l'enfant sera heureux aussi. C'est la pire des âneries, puisque l'enfant, il prend naissance dans l'amour du père et de la mère. Mystérieusement, il faut une trinité. Et c'est cet amour-là qui va donner consistance à l'enfant. C'est un grand mystère. Et dans ce sens-là, l'enfant a droit aux secrets de son père et de sa mère. Mais les secrets de son père et de sa mère leur sera donné comme un amour. Amour qui va le constituer et dans lequel il pénétrera selon le don de Dieu, dans la volonté de l'Esprit-Saint. Un point, c'est tout. Elle se laisse véritablement exproprier au profit et à l'usage de la communauté. Dans ce sens, Marie est mère de l'Église, elle est mère de chacun de nous. Et de cette façon, elle nous enseigne une nouvelle manière de prier. Vraiment, elle nous enseigne une nouvelle manière de prier. Alors, entrons dans la contemplation du mystère de Marie. Entrons dans le mystère de sa maternité, maternité qui est opérée par l'Esprit Saint. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Allusion alors ici à la nuée, symbole de Dieu qui couvrait la tente d'alliance. L'arche d'alliance était ainsi désignée comme le lieu de la présence de Dieu. Désormais, Marie est la nouvelle arche d'alliance, car elle portera dans son sein le Fils de Dieu. Le signe qui est donné à Marie, le signe qui lui est donné, c'est Élisabeth, la stérile. Élisabeth, la stérile, elle porte un enfant dans son sein. Réjouis-toi, dit l'ange, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu, et voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Marie dit alors, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme, puisque je suis vierge. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, elle aussi, a conçu un fils. Il faudrait maintenant reprendre tout le texte. Vous verriez, tu vas concevoir et enfanter un fils. Dans une partie, Élisabeth a conçu un fils. Et vous apercevez, à la manière des exégètes, que c'est quelque chose qui se correspond parfaitement. Alors qu'on l'appelait la stérile, alors que tu dis que tu ne pourras pas. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que dans son désir de virginité, Marie se sentait orientée vers cet état de vie étonnant, mais socialement, extérieurement, elle passait ou elle prenait le parti de passer pour les gens comme stérile. Quand on veut vivre avec les pauvres, le danger, c'est qu'on devienne aussi pauvre qu'eux. Mais bienheureuse pauvreté. Oui. Il a regardé la bassesse de sa servante. Allez l'expliquer. Il a regardé l'humiliation de sa servante. Ça correspond bien à ce mystère de stérilité, de non-fécondité humaine. Il faut voir ce que la pauvre mère de Samuel pouvait dire dans sa prière quand elle monte et qu'elle prie pour avoir un enfant. Faut voir toutes ces femmes qui préfigurent Marie et qui, crie littéralement, donne-moi un enfant, sinon je meurs. Oui, ce mystère, ce grand mystère. Mais la maternité virginale de Marie est le terme d'une longue préparation, d'un long chemin de toute l'histoire du salut. Pour les stériles comme pour les vierges désormais, la maternité divine est un don spécial de Dieu. Une nouvelle fécondité est ouverte, et elle est ouverte là, pas avant, mais maintenant, grâce au mystère de Jésus et de Marie. Réjouis-toi, comblé de grâce. Il faudrait passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur ce lieu-là. Réjouis-toi, comblé de grâce. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Oui, il nous faudrait passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Oui, il nous faudrait reprendre ce texte où il y a là cette salutation. Et puis où il y a une première annonce. Tu as trouvé grâce, tu vas concevoir un fils, ce sera le fils du Très-Haut. Et une objection, je suis vierge, comment veux-tu que cela se fasse? Première annonce. Deuxième annonce, maternité divine, l'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. L'enfant qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Le signe, Élisabeth. Mystère, mystère de la parole de Dieu, que les exégètes regardent avec beaucoup d'attention et certainement que nous ne regardons pas suffisamment. Oui, deux annonces qui se correspondent parfaitement. La maternité divine est virginale de Marie. Elle est comblée de grâce. Elle est le fruit de la grâce de Dieu. Non seulement au moment de l'événement même, mais depuis longtemps déjà. Marie y était préparée par la grâce, comme l'implique la salutation initiale de l'ange. Réjouis-toi d'être comblée de grâce. Alors il faudrait prendre beaucoup de temps sur ces mots très particuliers. Oui. Marie va donner son consentement joyeux. La joie de Marie, on pourrait passer beaucoup de temps. La joie de l'existence chrétienne, oui, beaucoup de temps. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. En latin, on a toujours dit le fiat. Alors vous avez des gens qui vous racontent fiat, fiat, fiat. Quand vous ne savez pas ce que ça veut dire et qu'on n'a pas fait de latin, vous vous demandez ce qu'on est en train de raconter là. En grec, genoito. On ne connaît pas le grec, ni chaud ni froid. Mais ce qui est dit là, c'est que c'est un mot unique, et unique dans toute la Bible. Alors ça, faut le savoir. C'est là que l'exégèse nous aide. Pour le fiat de Marie et l'Annonciation, Luc emploie l'optatif genoito, qui n'est employé positivement qu'à cet unique endroit du Nouveau Testament. C'est important de savoir qu'un mot, il est appliqué là et là seulement. Vous ne le retrouverez jamais autrement. C'est une indication, même pour les spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un désir joyeux de coopérer à l'œuvre de Dieu. Alors, on voit bien, cette joie est condensée dans son cœur jusqu'à ce que Élisabeth lui dise son mystère et qu'elle alors exprime d'une manière absolument étonnante « Mon âme exalte le Seigneur, exulte de joie en Dieu mon Sauveur. » En Dieu mon Sauveur, on va voir le Sauveur. Oui, c'est un joyeux désir de collaborer à ce que Dieu prévoit pour elle. C'est là que nous commençons à comprendre pourquoi notre « oui » n'est jamais un « oui » de la manière dont nous voulons servir Dieu. Notre « oui » il est un oui qui dit Dieu à Dieu, feu vert pour tout ce que tu veux. Non pas ce que moi je veux, même moi pour toi, mais toi tu veux réaliser avec moi. Ce n'est pas du tout pareil. Et cette joie, eh bien elle est d'un bout à l'autre du texte. D'un bout à l'autre du texte, cette joie rayonne. Réjouis-toi, comblé de grâce, mais tu as trouvé grâce. Eh bien, oui, et c'est une inclusion, diront les exégètes. C'est-à-dire qu'un texte commence par un mot Et il se termine par un mot, et ça veut dire que tout est contenu dans ce mot-là, ou dans cette expression-là. Réjouis-toi, comblé de grâce, dit l'ange, le Seigneur est avec toi, ça c'est tout le ciel. Eh bien la terre répond, oui, d'accord, dans tout ce mystère-là. Ce mystère-là qui la dépasse complètement, comme elle nous dépasse encore bien plus. Ô Vierge, disait Saint Bernard, tu as entendu l'annonce du fait, tu as entendu aussi de quelle manière il se passera. L'un et l'autre est merveilleux. L'un et l'autre nous remplit de joie. Ah, essayez-nous cette fois-ci. Est-ce que nous en sommes joyeux de ce mystère? Si oui, nous commençons à être chrétiens. Sinon, ben, il faudrait dire quelques chapelets pour laisser cette joie nous saisir un petit peu plus. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Jubile, fille de Jérusalem. Bien sûr que c'est d'elle dont il s'agit, mais désormais, c'est notre mystère. Ce qui appartient à la mère appartient à l'enfant. Fille de Jérusalem, et puisque la joie et l'allégresse ont résonné à ton oreille, nous voudrions aussi entendre de ta bouche la réponse de ta joie. Nous le désirons pour que puissent exulter nos os que tu as broyés. C'est Isaïe qui dit ça. Oui. L'ange attend ta réponse. Ah oui. Nous aussi nous attendons, ô souveraine, la parole de miséricorde. Ô Vierge, donne ta réponse sans tarder. Ô Vierge bénie, ouvre ton cœur pour la fidélité, tes lèvres pour le oui. Voilà le chapelet de Saint Bernard. Il se met dans l'attente de l'ange. Voyez, c'est ça aussi le rosaire. Se mettre dans la peau des personnages, même si c'est un grand archange, et attendre de Marie sa réponse. Ô Vierge bénie, ouvre ton cœur pour la fidélité, tes lèvres pour le oui, ton corps pour le Créateur, voici, celui que désirent toutes les nations frappe à ta porte. Ô, s'il devait passer à cause de ton hésitation, tu irais de nouveau pleine d'affliction, chercher l'amant de ton âme. Lève-toi, cours, ouvre, lève-toi avec foi, cours avec ta piété, ouvre avec ton oui, le oui de Marie. Le oui de Marie est notre propre oui. C'est Élisabeth de la Trinité qui, à sa manière, parle de l'Annonciation. Alors c'est un autre langage. Et c'est bon de varier les genres, ça nous repose, ça nous détend. La Sainte Vierge se tenait si petite, si recueillie en face de Dieu, dans le secret du temple, qu'elle attirait les complaisances de la Trinité Sainte. Le Père se penchant sur cette créature si belle, si ignorante de sa beauté, voulut qu'elle soit la mère dans le temps de celui dont il est le Père dans l'éternité. Alors l'esprit d'amour qui préside à toutes les opérations de Dieu survint. La Vierge dit son fiat. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le plus grand des mystères fut accompli. Et par la descente du Verbe en elle, Marie fut pour toujours la proie de Dieu. Alors vous voudrez méditer la proie de Dieu. Avez-vous déjà vu un aigle qui va prendre un petit agneau, qui le prend et qui part avec. Voilà Marie, voilà le chrétien. Il ne s'appartient plus, il est la proie de Dieu. Mais Dieu est un aigle à la manière de Saint Jean. Être épouse du Christ, alors voilà la méditation d'Élisabeth. Ce n'est pas seulement l'expression du plus doux des rêves, c'est une divine réalité, l'expression de tout un mystère de similitude et d'union. Épouse, tout ce que ce nom fait pressentir d'amour donné et reçu, d'intimité, de fidélité, de dévouement absolu. Être épouse, c'est être livré comme lui s'est livré. Être épouse, c'est avoir tous les droits sur son cœur, c'est un cœur à cœur pour toute une vie. C'est vivre avec, toujours avec. C'est se reposer de tout en lui, et lui permettre de se reposer de tout en notre âme. C'est ne plus savoir qu'aimer, aimer en adorant, aimer en réparant, aimer en priant, en demandant, en s'oubliant, aimer toujours sous toutes les formes. Être épouse, c'est avoir les yeux dans les siens, la pensée hantée par lui, le cœur tout pris, tout envahi, comme hors de soi et passé en lui. L'âme pleine de son âme, pleine de sa prière, tout l'être tout captivé et donné. C'est en le fixant toujours du regard, surprendre le moindre signe, le moindre désir. C'est entrer en toutes ses joies, partager toutes ses tristesses, c'est être féconde, corédemptrice, enfanter les âmes à la grâce. Enfin, c'est avoir ravi son cœur, au point qu'oubliant toute distance, le Verbe s'épanche dans l'âme, comme au sein du Père, avec la même extase d'amour infini. C'est le Père, le Verbe et l'Esprit, envahissant l'âme, la déifiant, la consommant en l'un par l'amour. C'est le mariage, l'état fixe, parce que c'est l'union indissoluble des volontés et des cœurs. Et Dieu dit, faisons-lui une compagne semblable à lui. Ils seront deux en un. Ça, c'est le mystère de Marie. Et c'est le mystère de Marie à la croix. Et c'est le mystère de Marie à la croix où Marie va découvrir qu'elle est immaculée grâce à ce lieu-là. Comme disait Bossuet, le sang du Christ qui rachète l'humanité a remonté jusqu'à sa source avant même l'heure de sa naissance pour sanctifier sa mère, Immaculée Conception. C'est en Marie que naît le Christ, mais Marie est la première Église. C'est en Marie que naît l'Église, Marie est l'Église en sa naissance. Balthazar dit, la grâce de Marie est d'une nature très particulière. Elle est en quelque sorte unique, elle est archétypale, elle est le lieu à partir duquel, eh bien, à l'infini, ça va se reproduire. Oh, pas comme des quatre chevaux dans une usine de Renault, certainement pas. En respectant la manière dont ces petites fleurs, depuis combien de temps, moi je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours les mêmes et elles sont chacune uniques à condition d'être dans le bain d'amour en ce qui nous concerne, qui est le cœur de Dieu et qui nous revient. C'est pourquoi nous décelons une mystérieuse identité entre l'Église dans sa plus profonde authenticité et Marie. Marie est l'Église, mais l'Église, c'est nous, donc nous devons devenir le mystère de Marie. Oui. Thésée, le père Emery. Marie est l'être humain qui se trouve le plus au centre de l'histoire du salut. On attend depuis tout l'Ancien Testament, et Marie en est comme l'aboutissement, mais non seulement elle est l'aboutissement de la Nouvelle Alliance, l'image de la synagogue, diront certains, mais elle est, dans son commencement, icône de l'Église, pour tout son développement jusqu'à la fin. C'est le cardinal Journet qui prend cette image de Pierre qui tombe dans un lac. Ça, c'est l'impact de l'incarnation dans notre humanité. Eh bien, à partir du premier cercle concentrique qu'il va déclencher, la chute de cette pierre, de cet astre divin, eh bien, il y aura à l'infini, comme on le fait, on le voit par excellence, une ondulation qui partira jusqu'au bout. Mais elle partira toujours de son cœur, de la première. Et la première arrivera jusqu'à la fin. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Nous comprenons bien ce mystère. Oui. Et sa grâce, c'est une grâce de virginité. Et pour ceux qui cherchent encore, où est-ce qu'elle est la fécondité de la virginité? Mais elle est là, et il n'y en a pas d'autre. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Kairé, Kekaritomene. Ça vous dit pas grand-chose, hein? Eh bien, c'est pour dire que c'est les mêmes mots. Les mêmes mots. Réjouis-toi et comblé de grâce sont les mêmes mots. Mais dit à la manière du grec, que je ne connais pas ou pas beaucoup. Pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Yahvé, ton Dieu, est au milieu de toi. Littéralement, dans l'hébreu cette fois, il est dans tes entrailles. C'est étonnant, le réalisme de la Bible. On comprend qu'il y a des gens qui veulent se mettre à faire du grec, de l'hébreu et plein de choses comme ça. On comprend, c'est pour goûter de l'intérieur la parole de Dieu. Oui, en vaillant sauveur. En vaillant sauveur. Marie est la fille de Sion qui récapitule toute l'attente du peuple d'Israël. Marie a attendu son sauveur dans son cœur, dans sa chair. Réjouis-toi, Kairé. Alors, attendez. Kekaritomene. Comblé de grâce, on traduit. C'est à partir de la même racine. Autrement dit, c'est une redondance. Oui. Alors, c'est là que c'est important parce que nous sommes tous touchés. Alors, je vous fais un petit développement. C'est pas moi qui l'ai fait, croyez-moi. Mais ça ne fait rien, je peux vous le dire. Participe passé, parfait, d'un verbe très rare, carito, de la même racine que le verbe kairo. Réjouis-toi. Cara, la joie, vient du mot charis, la grâce. Eucharistie, action de grâce. Le parfait en grec correspond à une action passée. La conception immaculée de Marie, elle demeure toujours. C'est au présent. Passé, présent. Littéralement, foi qui a été et qui demeure remplie de la grâce divine. Comblée de grâce, c'est le véritable nom de Marie. Jusque maintenant, c'est elle qui est concernée. Eh bien, figurez-vous qu'en ouvrant l'épître aux Éphésiens, et là uniquement, il y a le même mot nous concernant, quand il est dit « afin qu'il soit saint, immaculé sous son regard ». C'est le même mot, c'est la même réalité. Pour nous, elle arrive après, pécheurs que nous sommes sauvés. Pour elle, cette réalité est arrivée avant Immaculée Conception. Elle peut dire en effet avec justice, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » Oui, elle est la première sauvée. Quand on prend en parallèle Luc 1, Éphésiens 1, voilà ce que ça donne. Béni soit le fruit de tes entrailles, Luc 1, 42. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans le Christ. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Il nous a élus en lui pour être saints, immaculés, en sa présence, dans l'amour. Le Seigneur est avec toi. Le nom de la Vierge était Marie. Mise à part, désignée d'avance, dont le nom était donné d'avance. Il sera appelé Fils du Très-Haut, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs dans le Christ, par le Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. Comblé de grâce, tu l'appelleras du nom de Jésus, le Seigneur sauve. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés, selon la richesse de la grâce. Il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Ramenez toutes choses sous un seul chef, le Christ. Je suis la servante du Seigneur. Ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. L'Esprit Saint viendra sur toi, vous avez été marqués d'un sceau par l'esprit de la promesse. En parallèle, ce texte du début des Éphésiens, qui donne tout à fait ce que nous sommes, correspond presque mot pour mot à ce chapitre que Luc nous donne. Alors c'est tellement important pour nous. Que dira l'ange à la Vierge bienheureuse et pure? Comment lui communiquera-t-il le grand message? Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Quand il s'adresse à elle, c'est par la joie qu'il commence, lui qui était l'annonciateur de la joie. Tout dans cette homélie de Sophrone. Vous ne connaissez pas Sophrone. Sophrone, je crois que c'est celui qui a, si je ne me trompe pas, mais je pourrais bien me tromper, fait l'hymne acatiste. Réjouis-toi, ô mère du Sauveur. Puis il y en a, bien sûr, il faut du temps pour écouter tout ça. Réjouis-toi, toi par qui resplendit la joie. Réjouis-toi par qui cesse la malédiction. Réjouis-toi, toi, le relèvement d'Adam déchu. Réjouis-toi, toi, le tarissement des larmes d'Ève. Réjouis-toi, sommet inaccessible à la pensée humaine. Réjouis-toi, abîme impénétrable aux yeux même des anges. Alors, si Max était là, mais il est à la fête en ce moment, je lui dirais, tu vois, Max, même si les anges ne comprennent pas, je comprends tout à fait bien que toi, tu ne comprennes pas non plus. Réjouis-toi, car tu es le trône du grand roi. Réjouis-toi, car tu portes celui qui porte toutes choses. Réjouis-toi, et toi, l'annonciatrice du soleil. Réjouis-toi, saint de la divine incarnation. Réjouis-toi, toi par qui est renouvelée la création. Réjouis-toi, toi par qui et en qui est adoré le Créateur. Réjouis-toi, épouse inépousée, ô Vierge. Donc, cet appel à la joie, cet accomplissement dans la joie, c'est vraiment le message de joie qui retentit dans tout l'Évangile. Et on comprend que Paul, dans ses lettres, « Mais soyez dans la joie, mais surabondez de joie. Où elle est votre joie ?» Alors, si je les avais ici, mais je ne les ai pas ici, je vous ferai toute une tirade sur saint Paul, tel qu'il voudrait que nous soyons dans la joie. Et on comprend que lors de la visitation, Élisabeth lui dise, « Vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, le prophète, celui qui va annoncer ce mystère, eh bien il commence par en être saisi lui-même. » C'est Élisabeth qui le dit, mais elle doit le savoir, il est en elle. L'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein, à croire qu'elle l'a entendu de ses oreilles. Et lorsque les anges font l'annonce au berger de Bethléem, c'est encore un message de joie. Réjouissez-vous, rassurez-vous, je vous annonce une grande joie. Vous savez, quand on dit un saint triste, est un triste saint. Je crois que ça s'origine vraiment là. Je crois qu'on peut porter de grandes détresses, de grandes douleurs, oui, vraiment. Mais le cœur du chrétien, comme le cœur du Christ, ne peut pas ne pas avoir un fond, si invisible et inaccessible qu'il soit dans la joie. C'est pour ça que le Christ de l'Hérens est un Christ qui sourit. Rassurez-vous, voici que je vous annonce une grande joie, celle de tout le peuple. La joie qui transparaît dans l'Ancien Testament, on y a fait allusion. Elle se propage et elle va se concentrer dans une femme individuelle, la femme Sion, nommée Marie. Oui. Marie qui rassemble dans sa personne, pour ainsi dire, les désirs, les espérances de tout le peuple d'Israël. Réjouis-toi, disait Germain de Constantinople. Réjouis-toi, toi, la nouvelle Sion, la Jérusalem divine, la sainte cité de Dieu, le grand roi, dans tes demeures, Dieu lui-même est connu. Kekaritomene, vous saurez ? Moi, je ne saurais pas. Ce verbe, il indique donc une action qui effectue quelque chose dans l'objet. L'action du baptême. Hein? Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, eh bien, vous avez revêtu le Christ, la puissance de l'Esprit Saint est en vous et vous êtes une créature nouvelle. Eh bien, ce verbe-là, qui réjouis-toi, comblé de joie, dit ce mystère-là pour le chrétien dans l'Épître aux Éphésiens. Pour nous, il est une parole sacramentelle, comme on dit, qui réalise, comme la parole de Dieu, ce qu'elle signifie, le geste, avec la parole qu'un bindou accomplit. Il fait de nous des baptisés, des renés. Eh bien, ce verbe qui s'adresse au passé et au présent à Marie signe l'Immaculée Conception de celle qui est intéressée par ce mystère. Voilà où s'origine, d'un point de vue de la parole, l'Immaculée Conception de Marie. Oui. Il indique donc une action qui s'effectue, alors dit le texte, que je suis en train de lire, comme blanchir, comme rendre libre, comme asservir. C'est un texte, un mot qui réalise, quand il est employé, l'action qu'il est en train de décrire. Or, il exprime le changement opéré par la grâce. De plus, la forme verbale que Luc emploie est un passif, le parfait du participe. Kekaritomene, vous le direz bientôt mieux que moi, signifie donc que dans la personne à qui se rapporte le verbe, Marie, l'action de la grâce de Dieu a déjà opéré un changement. Il n'est pas dit comment cela s'est passé. Non, pas besoin de savoir le comment. Ce qui est essentiel ici, c'est qu'il est affirmé que Marie a été transformée par la grâce de Dieu. Voilà ce qu'il faut savoir. En vue de sa maternité divine, étant donné que le verbe carito n'est utilisé que deux fois dans le Nouveau Testament, alors voilà les petits signes où les exégètes nous sont quand même très utiles et où nos traductions sont tout à fait insuffisantes. Oui. Il est intéressant de vérifier comment les pères de l'Église expliquent l'autre texte où il se présente notamment dans ce verset aux Éphésiens, chapitre 1, verset 6. Le premier signifie tout simplement qu'une grâce nous a été donnée. Paul aussi naturellement écrit « la grâce merveilleuse que Dieu nous a donnée ». Mais c'est précisément ce qu'il ne fait pas. Il emploie la deuxième forme verbale qui signifie « Dieu nous a transformés par cette grâce merveilleuse ». Le second inclut une nuance de plus que le premier, notamment l'effet produit dans les personnes par la grâce donnée. En Luc 1, 28, cela se rapporte à Marie. Dans Éphésiens 1, 6, à tous les chrétiens touchés et changés par la grâce de Dieu. Nous allons demeurer dans cette grâce, nous qui sommes saints, immaculés sous son regard. Psychologiquement, combien de nous souffrent de la mauvaise image que nous nous sommes, avec laquelle nous nous sommes retrouvés, compte tenu du péché originel, compte tenu de tous les avatars, de tous ceux qui sont dans le circuit où nous avons trouvé finalement la vie. Ça, c'est le point de vue de la nature. Ce que nous oublions bien trop, c'est que ce que la grâce de Dieu, la grâce du baptême a renouvelé en nous. Ça, nous l'oublions bien trop. Nous sommes vraiment au baptême devenus une création nouvelle. Or, nous qui avons été purifiés, nous qui avons été sanctifiés, pour que nous soyons saints, immaculés sous le regard de Dieu, regardons à nouveau celle qui, dans sa conception même, est immaculée, de manière à ce qu'elle nous aide à vivre saints et immaculés sous le regard de Dieu.